Le voyage à Konostrov. La locomotive poussa un cri strident. Le mécanicien comprit que le frein la serrait trop fort et tourna la manivelle dans le bon sens. Pendant qu'un homme à casquette blanche s'y fait à son tour pour avoir le dernier mot. Le train s'ébranla lentement. La gare était humide et sombre et il n'aimait pas y rester. Il y avait 6 personnes dans le compartiment. 4 hommes et 2 femmes. 5 d'entre eux échangeaient des vocables et pas le 6e. En partant de la fenêtre, sur la banquette d'en face et de gauche à droite, c'était Jacques, Raymond, Brice et une jeune femme blonde très jolie, Corinne de son nom. En face d'elle, il y avait un homme dont on ne connaissait pas le nom, Saturne Lamier. Et en face de Raymond, une autre femme brune, pas très jolie, mais elle montrait ses jambes. Garamouche, elle s'appelait.
Le train repart, dit Jacques.
Il fait froid,
dit Garamouche.
On joue aux cartes,
dit Raymond. Votre nom, dit Brice.
Vous n'êtes pas galant,
dit Corinne.
Si vous mettiez entre Raymond et moi, ce serait mieux, non?
Dit Jacques.
Oui,
dit Raymond. C'est une bonne idée, dit Brice, qui n'était pas galant.
Et elle sera en face de moi,
dit Garamouche. Je vais venir à côté de vous.
Oh, ne bougez pas! Venez donc!
Je viens,
dit Corinne.
Ils se levèrent tous à la fois et se mélangèrent. Et il faut recommencer depuis le début. Seul, Saturne Lamiel n'avait pas changé de place et il continuait à ne rien dire. De sorte que, en partant de la fenêtre, sur l'autre banquette et de gauche à droite, il y avait Brice,
Garamuche,
un espace vide, Saturne Lamiel, en face de Saturne Lamiel, un espace vide, et puis
Jacques,
Corinne
et Raymond.
Il jeta un regard vers Saturne Lamiel, qui le reçut en plein dans l'œil et cligna, mais ne dit rien.
On n'est pas plus mal,
dit Brice. Garamouche remet sa jupe en place. On commençait à voir les attaches nickelées qu'elle s'en servait pour attacher ses bas. Elle s'arrangea pour qu'on puisse en voir autant d'un côté que de l'autre.
Vous n'aimez pas mes jambes,
dit Garamouche.
Écoutez, dit Corinne, vous tenez mal. On ne demande pas ces choses-là.
Vous êtes fameuse,
dit Jacques à Corinne.
Si vous aviez la gueule qu'elle a, vous montreriez vos jambes aussi.
Il regarda Saturne, la mienne, et celui-ci ne détourna pas la tête, mais fixa quelque chose d'assez lointain.
Oh. Et si on jouait vos cartes,
dit Raymond.
Zut,
dit Corinne.
Ça ne m'amuse pas. J'aime mieux bavarder.
Et il y eut un instant de gêne. Et chacun savait pourquoi Brice pied dans le plat. S'il n'y avait pas dans ce compartiment des personnes qui ne veulent pas répondre quand on leur cause, ce serait rien de plus mal.
Mince! Vous n'avez pas regardé, hein? Si, je sens que vous m'avez regardé, hein. Avant de dire ça, vous m'avez regardé, hein. Vous m'avez regardé. Je ne vous réponds pas, peut-être, c'est cela.
Ce n'est pas de vous qu'on parle,
rajouta Jacques. Il avait les cheveux bruns et les yeux bleus, et une belle voix de basse. Il était rasé de près, mais la peau de ses joues était bleue, comme le dos d'un maquereau pas cuit. Si c'est à moi que Brice en a, ou plutôt si c'est à moi que Raymond en a, peut-être faut-il le dire en clair, mais Raymond regarda Saturne Lamiel une seconde fois. Saturne Lamiel paraissait absorbé dans ses pensées.
Autrefois,
dit Corinne,
on connaissait des moyens de faire parler les gens pendant l'Inquisition. J'ai lu des choses là-dessus.
Le train allait vite, maintenant. Mais ça ne l'empêchait pas de faire avec ses roues la même réflexion toutes les demi-secondes. Dehors, la nuit était sale et le sable de la steppe reflétait quelques étoiles. De temps à autre, un arbre giflait de ses feuilles avancées la grande classe froide.
Bon, quand est-ce qu'on arrive?
Bon, alors là, certainement pas avant demain matin, hein.
On a le temps de s'emmerder.
Et si seulement les gens voulaient répondre?
C'est pour moi que vous dites ça?
Mais non, c'est à lui qu'on en a.
Ils se turent subitement. Le doigt tendu de Raymond désignait Saturne Lamiel. Celui-ci ne bougea pas, mais les quatre autres sursautèrent. Il a raison. Pas de faux fuyants. Il faut qu'il cause.
Laissez-moi faire. Vous allez aussi à Colostrophe?
Vous aimez le voyage?
Garamuche occupa l'espace vide entre elle et Saturne, laissant Brice tout seul près de la fenêtre. Son geste découvrit le haut de ses bas et les attaches roses de ses machines nickelées. Un peu de la peau des cuisses, aussi tannée et lisse, à soin.
Vous jouez aux cartes?
Est-ce que vous avez entendu parler de l'Inquisition, monsieur?
Saturne Lamiel ne bougea pas et arrangea ses pieds dans la couverture écossaise verte et bleue qu'il avait sur les genoux. Sa figure était très jeune et ses cheveux blonds, soigneusement partagés par une raie au milieu, et retombaient en vagues égales sur ses tempes.
Mince, il nous provoque.
Mais les paroles de Brice n'eurent point d'écho. Chose naturelle si l'on considère que les parois d'un compartiment de chemin de fer se comportent, vu leur constitution, comme des matériaux insonores. Et par ailleurs, il faut se rappeler qu'une certaine longueur de 17 mètres entre en jeu. Le silence était gênant. Raymond reprit.
Bon, et si on jouait aux cartes?
Oh, vous, avec vos cartes!
Garamuche avait visiblement envie de se faire faire des choses.
Mais enfin, foutez-nous la paix!
Rajouta Jacques.
Sous l'Inquisition, il brouillait les pieds pour leur faire parler à ces cochons, avec des fers rouges ou n'importe quoi. Il leur arrachait aussi les ongles ou leur crevait les yeux et il...
Ça va, c'est déjà de quoi nous occuper, rajouta Brice. Ils se levèrent tous ensemble,
sauf Saturne Lamiel.
Le train passa sous un tunnel en faisant un gros hurlement rauque et un bruit de cailloux heurtés.
Ah,
enfin ressortis du tunnel, Corinne et Garamuche étaient près de la fenêtre, l'une en face de l'autre. À côté de Saturne la mienne était assis Raymond. Entre lui et Corinne, il y avait un espace vide. En face de Saturne la mienne, il y avait Jacques, Brice et un espace vide, puis Garamuche. Sur les genoux de Brice, on pouvait voir une petite valise de cuir jaune, tout neuf, avec des anneaux nickelés pour tenir la poignée et les initiales de quelqu'un d'autre qui s'appelait également Brice, mais dont le nom prenait de paix.
Allez-vous à Conostrophe ?
Dit Jacques. Il s'adressait directement à Saturne Lamiel. Et ce dernier avait les yeux fermés et respirait doucement pour ne pas se réveiller. Raymond remit ses lunettes en place. Raymond était un homme grand et fort, avec de grosses lunettes et une raie sur le côté, les cheveux un peu en désordre.
Qu'est-ce qu'on fait ?
Les doigts de pied, dit Brice. Et il ouvra sa petite valise de cuir jaune.
Il faut lui retirer ses souliers,
suggéra Corinne.
Je préférerais qu'on lui fasse la méthode des Chinois,
dit Garamuche. Mais elle se tut et rougit car il leur a gardé tous d'un air furieux.
Ne recommencez pas,
hein. Sacré nom de Dieu, mais quelle salope.
Là, vous exagérez.
Qu'est-ce que c'est que la méthode des Chinois?
Cette fois, à la dernière phrase de Raymond, il y eut un vrai silence de mort. Surtout que le train roulait à ce moment sur la portion de voie en caoutchouc qu'ils viennent de construire entre Concierge des Mertoff et Smogogolette. Ça réveilla Saturne la mienne. Ses jolis yeux noisettes s'ouvrirent d'un seul coup et il remonta la couverture écossaise qui glissait sur ses genoux. Et puis, il referma les yeux et parut s'endormir. Vu l'attitude de Saturne la mienne, Raymond tourna à l'écarlate dans un grand bruit de frein et n'insista pas. Garamuche grognait dans son coin et regardait s'il avait son rouge à lèvres. Elle le fit sortir et rentrer rapidement plusieurs fois à la dérobée pour que Raymond comprenne. Et il devint encore plus rouge. Brice et Jacques s'étaient penchés sur la petite valise et Corinne regardait Garamuche avec dégoût.
Les pieds, enlevez-lui ses souliers,
rajouta Raymond, succédant à Brice. Celui-ci, heureux de se rendre utile, s'agenouilla près de Saturne la mienne et tenta de défaire ses lacets de souliers qui sifflaient et se tordirent dans tous les sens en le voyant approcher. N'y parvenant pas, Raymond cracha dessus comme un chat en colère.
Allons, vous nous retardez.
Je fais de mon mieux, mais on ne peut pas les défaire, ces foutus lacets.
Tenez.
Et Brice tendit à Raymond une petite pince coupante bien brillante. Et Raymond coupa le cuir des chaussures autour des lacets pour éviter d'abîmer ses derniers. Il enroula autour des doigts après avoir terminé l'opération. Ça va, là ça se déroule bien. Il n'y a plus qu'à lui retirer ses chaussures. C'est Jacques qui s'en chargea. Saturne la mienne dormait toujours. Et Jacques mit ses lacets dans le filet.
Et si vous disposiez ce genre de femme, je sais pas si c'est ce genre de femme.
Proposa de courir.
Vous savez, ça garde la chaleur et ça salit la plaie après. Et ensuite, ça peut s'infecter.
C'est une bonne idée.
Crois bon de rajouter Jacques. Je suis complètement d'accord. Et Raymond, qui écoutait Brice, s'était entre-temps assis à côté de Saturne et jouait machinalement avec ses lacets. Brice prit dans la valise jaune une jolie lampe à souder miniature et une petite bouteille. Et il versa de l'essence dans le creux. Jacques alluma une allumette et enflamma l'essence. Une belle flamme jaune, bleue et fumeuse, s'éleva et grilla les sourcils de Brice, qui se mit à jurer. Saturne la mienne ouvrit les yeux à ce moment-là, mais il les referma tout aussitôt. Ses belles mains longues et soignées reposaient sur la couverture écossaise, entrecroisés d'une façon si compliquée que Raymond avait mal à la tête depuis 5 minutes qu'il essayait de comprendre. Corinne ouvrit son sac et prit son peigne. Elle se recoiffa devant la vitre car le fond noir de la nuit lui permettait de s'y voir. Dehors, le vent sifflait très fort et les loups galopaient pour se réchauffer. Le train dépassa un voyageur qui pédalait sur le sable avec la dernière énergie.
Oh, ouais !
Brisky Polstock n'était pas loin. La steppe continuait comme ça jusqu'à Kornopuchik, à 2 verstes et demie de Branchounornavir. En général, personne ne pouvait prononcer le nom de ces villes. Et on avait pris l'habitude de les remplacer par Urville, Mâcon, Le Puy et Sainte-Machine. La lampe à souder se mit à fonctionner avec un crachement brutal et Brice régla le pointeau pour obtenir une courte flamme bleue. Il la passa à Raymond et posa la valise jaune à terre.
On fait un essai ?
Oui, allons-y gaiement !
Et il se pencha sur Saturne.
Vous allez jusqu'à Colostrophe ?
Saturne ouvrit un œil et le referma.
Le salon !
Et Brice s'agenouilla à son tour devant Saturne et souleva un de ses pieds sans préciser lequel.
Si vous brûlez les ongles, brûlez les ongles d'abord,
dit Cory.
Ça fait plus mal, ça fait plus mal. Et c'est plus long à cicatriser.
Sur la figure ovale de Saturne la mienne, se dessina un sourire fugitif. Brice reprit la lampe à souder et attaqua l'autre pied juste au milieu de la plante tandis que Raymond fouillait dans la valise. La flamme bleue de la lampe réussit à traverser le pied de Saturne au moment précis où Raymond trouvait le nerf. Jacques l'encouragea.
Essayez sous le genou.
Hurlait Corinne. Ils allongèrent le corps de Saturne sur une des deux banquettes pour travailler plus commodément. La figure de Saturne était toute blanche et ses yeux ne remuaient plus sur ses paupières. Il y avait un violent courant d'air dans le compartiment, car l'odeur de chair brûlée avait augmenté jusqu'à devenir insupportable. Et Corinne n'aimait pas ça. Brice éteignit la lampe à souder. Des pieds de Saturne coulait une humeur noire sur la banquette maculée.
Bon, si on arrêtait une minute.
Jacques s'essuyait la figure d'un revers de main. Raymond porta la main à sa bouche. Il se sentait envie de chanter. La main droite de Saturne ressemblait à une fille éclatée. Il en portait des morceaux de chair et de tendons.
Oh, c'est quoi ce qu'il est dur, mais qu'est-ce qu'il est ?
Et Raymond sursauta en voyant la main de Saturne retomber d'elle-même sur la banquette. Il ne pouvait pas s'asseoir tous les cinq sur l'autre banquette, mais Raymond sortit dans le couloir après avoir pris une feuille de papier de verre et une ligne dans la valise jaune pour se dérouiller les jambes. Ainsi, de la fenêtre à la porte, on reconnaissait Corinne, Caramuche, Jacques et Brice.
Non mais quelle muve, quelle muve! Il ne veut pas parler, il ne veut pas nous parler, il ne veut pas nous parler.
C'est ce qu'on va voir.
Écoutez, je vais vous proposer autre chose.
Dis Corinne.
Le train continuait de rouler dans le steppe chelou et croisait des files de mendiants qui revenaient du marché souterrain de Golzi. Il faisait grand jour maintenant et Corinne regardait le paysage qui s'en aperçut et se cacha modestement dans un trou de lapin. Il ne restait à Saturne la mielle qu'un pied et un bras et demi, mais... comme il s'était endormi, on ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'il parle. On dépassa Goldzin. Bientôt Konostrophe, dans Cybers. Brice, Jacques et Raymond étaient épuisés. Mais leur morale tenait encore par trois ficelles vertes. Une pour chacun. La sonnette théologale retentit dans le couloir et Saturne sursauta. Brice lâcha son aiguille et Jacques faillit se brouiller avec le père électrique qu'il tenait. Raymond continua de chercher avec application l'endroit exact du froid, mais le lance-pierre de Brice manqua de précision. Saturne ouvrit les paupières. Il s'assit à grand-peine car l'absence de sa fesse gauche paraissait le déséquilibrer et remonta sa couverture écossaise sur ses jambes en lambeaux. Les souliers des autres clapotaient sur le plancher. Il y avait du sang dans tous les coins. Alors, Saturne secoua ses cheveux blonds et leur fit un bon sourire.
Hey! Je suis pas bavard, hein?
Dit Saturne la mienne. À ce moment-là, le train entrait en gare de Konostrophe. Ils y descendaient tous.
The wind in the land is one because of the wonderful thing he does. You have to be the wizard, the wonderful wizard of Oz.
Et c'est le crépuscule d'Hélène des Meufs, 377e dimanche. C'était le voyage à Conestrophe de Vido Harris Haine. Je vous souhaite une bonne fin de soirée sur Wii FM. Je vous donne rendez-vous à demain, sinon...
On fait quoi, là? Oh, putain!